Aujourd'hui, jeudi 27 septembre, a lieu dans la capitale argentine une réunion sur la stratégie de résilience de la ville de Buenos Aires. Avec la présence du chef de gouvernement de la ville, Horacio Rodríguez Larreta, de nombreux experts débattent et apportent des propositions sur la capacité d'une ville à survivre à un désastre, tremblement de terre, attaque terroriste ou désastre chronique comme la montée des eaux. Pour cela, nous allons bavarder avec M. Sébastien Maire, haut responsable de la résilience au secrétariat général de la ville de Paris. Bonjour M. Maire, vous vous trouvez actuellement à Buenos Aires.
Bonjour, oui, je viens d'arriver.
Et c'est votre première fois en Argentine ?
Non, ça fait 10 ans que je ne suis pas venu en Argentine, mais je suis beaucoup venu par le passé. Et j'aime beaucoup cette ville.
Donc, bon, vous connaissez un peu la problématique de cette ville, nous en parlerons plus tard. Mais pour commencer, quel est votre rôle dans cette réunion qui se tient actuellement à Buenos Aires ?
Eh bien, mon homologue, le Chief Resilience Officer, le responsable de la résilience de la ville de Buenos Aires, m'a proposé de participer à cet événement qui est important pour la ville, parce que le vote d'une stratégie de résilience, c'est quelque chose qui engage la ville sur le long terme, et je vais participer à plusieurs réunions avec les services de la ville de Buenos Aires, et je vais également participer à un panel, une table ronde où je pourrai évoquer des exemples de Paris en matière de résilience, puisque Paris a voté sa stratégie il y a tout juste un an, et nous avons un an de pratique, de mise en œuvre opérationnel de la stratégie. Je pense que je donnerai quelques exemples des plus-values que ça peut apporter pour la ville.
Justement, en parlant de Paris, là-bas, la résilience, comme vous dites, n'est pas nouvelle. Elle fait partie de l'action publique. Cela implique certainement un nouveau cadre d'organisation et des priorisations de l'action et des investissements publics.
Oui, alors la résilience n'est pas nouvelle. À Paris, d'ailleurs, comme ailleurs, puisque les villes ont toujours été résiliente sans forcément que ça s'appelle comme ça, la logique de protéger, de garantir que la ville pourra continuer de fonctionner, continuer de se développer indépendamment, grosso modo, de tout ce qui va pouvoir lui tomber dessus, ça a toujours existé. Néanmoins, ce qui est nouveau, c'est que ça appelle aujourd'hui à une nouvelle façon de produire les politiques publiques. Vous savez, dans nos grandes organisations publiques, et ça c'est partout dans le monde, on fonctionne en silo. C'est-à-dire qu'on a des grandes directions, une direction qui travaille sur l'environnement, une autre sur les transports, une autre sur le logement, une autre sur l'énergie, etc., etc. Et chacune de ces directions propose des projets, met en œuvre des projets. Le prisme de la résilience, c'est de dire que tout ça, c'est interconnecté. Et que quand on mène une action pour l'environnement, elle peut aussi servir des objectifs sociaux. Et vice-versa. Mais pour autant qu'on l'intègre, dès le départ dans la définition de la politique. Donc ça bouleverse un petit peu l'organisation interne, traditionnelle des collectivités, mais les agents qui sont impliqués dedans, ils trouvent largement leur compte, parce que ça redonne du sens aussi à l'action publique, de dire qu'on sera finalement plus efficace, il y aura plus de bénéfices pour le territoire et pour les habitants, pour chacune des actions et pour chaque euro ou peso dépensé par la collectivité publique.
Au-delà de leur caractère tragique, les désastres sont souvent des opportunités aussi pour mieux survivre et pour apprendre, c'est évident. C'est un peu votre rôle que d'alerter les autorités, les populations. Peut-on dire que la COP21 en décembre 2015 à Paris a signifié un tournant dans la prise de conscience générale ?
Oui, ça a été une étape importante, mais l'urgence est telle que ça ne suffit pas. Et on voit aujourd'hui que les accords de Paris ne sont pas respectés par tout le monde. Il y a encore beaucoup à faire, qu'il s'agisse de certains grands États qui s'en sont retirés, mais aussi de la sphère privée qui doit, elle aussi, s'engager à lutter pour pouvoir répondre à ses objectifs. Alors, bien sûr, le climat, le dérèglement climatique, c'est l'urgence numéro une. Mais on ne peut pas déconnecter la question du dérèglement climatique et de son impact sur les sociétés de la question des inégalités et de la question du lien social. Parce que, qu'il s'agisse d'ailleurs du dérèglement climatique ou d'autres types de catastrophes, ce sont en général les plus vulnérables qui sont les premiers touchés. Les plus vulnérables socialement qui ont le plus de difficultés à surmonter l'événement et surtout à s'en remettre une fois qu'il est passé. Et donc, la logique de la résilience, c'est de dire qu'il faut combiner ces deux objectifs principaux qui sont la réduction des inégalités et l'atténuation et l'adaptation des règlements climatiques pour être plus efficace et puis pour finalement pour voir l'avenir un peu plus sereinement. La résilience, c'est positif, c'est protecteur, c'est rassurant. C'est pas anxiogène, contrairement à des logiques qu'on a pu avoir par le passé en matière de culture du risque, par exemple. C'est l'idée, effectivement, comme vous l'avez dit, de savoir profiter des difficultés qui se présentent à nous pour pouvoir non pas revenir après la difficulté à un état identique ou à un état antérieur, mais pour avoir appris de la façon dont on a géré cette difficulté pour être plus fort, moins vulnérable, si jamais elle vient à se produire à nouveau. Donc c'est une logique, finalement, d'apprentissage permanent de tout ce que les aléas peuvent impliquer sur le fonctionnement d'une ville.
C'est clair. Monsieur Maire, parlez-nous un peu du réseau 100 villes résilientes, fondé, si je ne me trompe pas, en 2013, à l'occasion du 100e anniversaire de la Fondation Rockefeller, pour stimuler justement les politiques de résilience dans les villes.
Alors, ce réseau a vraiment un effet démultiplicateur très important. La ville de Paris ne serait pas engagée aujourd'hui dans une logique et dans des politiques ambitieuses de résilience si elle n'avait pas rejoint le réseau des 100 Resilient Cities qui a été lancé par la Fondation Rockefeller. Beaucoup de moyens ont été mis au départ pour convaincre les maires, les présidents de gouvernements locaux dans une centaine de villes sur les 5 continents qu'ils avaient intérêt à embrasser cette nouvelle approche. Et les logiques d'incentive étaient très fortes pour le réseau puisque, par exemple, moi, les deux premières années de ma prise de fonction à la ville de Paris, je n'ai rien coûté aux contribuables parisien, puisque c'est la Fondation Rockefeller qui a remboursé l'équivalent de mon salaire à la collectivité. La logique, c'était de dire, essayez, on va vous prouver que c'est utile pour vous et vous aurez envie de continuer. Et c'est ce qui a marché à Paris, puisque la ville de Paris a souhaité continuer, même sans soutien financier de la Fondation. Et c'est le cas d'ailleurs dans la plupart des villes. C'est-à-dire que c'est un réseau qui favorise énormément les échanges de bonnes pratiques entre villes. Ça nous permet d'aller plus vite. On ne peut jamais copier-coller des solutions d'une ville à l'autre, parce que les contextes sont différents, les contextes politiques, financiers, réglementaires, culturels même, sont différents. Par contre, on peut s'inspirer. On peut s'inspirer de ce qui fonctionne ailleurs, de ce qui a déjà fonctionné ailleurs, pour aller plus vite et démultiplier les effets, parce que l'urgence climatique est là, et on sait qu'il ne reste que quelques années, finalement, pour vraiment réorienter la barre, si on ne veut pas que les effets soient complètement catastrophiques. Donc le réseau apporte une aide financière, met à disposition des partenaires privés, des prestataires, de bureaux d'études, des laboratoires universitaires, des grandes associations qui peuvent nous fournir des études et des expertises gratuitement pendant l'élaboration ou la mise en œuvre de la stratégie. Et puis il y a des professionnels qui sont répartis entre Singapour, Mexico, Londres et New York qui organise ce travail d'échange, de bonnes pratiques entre toutes les villes.
Pour terminer, monsieur Sébastien Maire, avez-vous pu étudier un peu le cas de Buenos Aires ? Quelles sont, à votre avis, les priorités de cette immense ville qui, avec sa grande banlieue, concentre presque 15 millions d'habitants, et cela, c'est un tiers de la population totale de l'Argentine ?
Alors, je ne sais pas encore ce qu'il y a comme priorité dans la stratégie de résilience de Buenos Aires, puisqu'elle va être rendue publique dans quelques heures et qu'il y a un blackout, et c'est normal.
Oui.
C'est un événement important que de la rendre publique. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que Buenos Aires est confronté à des risques et à des stress qui sont ceux d'une mégalopole. Vous l'avez dit, 15 millions d'habitants, c'est gigantesque. C'est totalement incomparable à Paris. Hein. Paris est une toute petite ville. Paris est un village à côté de Buenos Aires. Mm-hmm. Et Paris, c'est à peine plus de 2 millions d'habitants. En Paris, intramuros. Et l'enjeu de d'autant de monde au même endroit, c'est une pression permanente sur les réseaux d'infrastructures, d'énergie, d'eau, de transport. C'est beaucoup de gens qui doivent se déplacer d'un endroit à l'autre. C'est une pression sur les ressources naturelles, etc., etc. On sait que la question du trafic automobile est quelque chose qui est assez problématique à Buenos Aires. Mais je pense que très optimiste sur le fait que cette stratégie qui va être présentée prépare l'avenir pour engager la ville dans une logique positive face à l'ensemble des enjeux qui vont se poser à elle.
Très bien, monsieur Sébastien Maire, haut responsable de la résilience au secrétariat général de la ville de Paris. Je vous remercie beaucoup et très bon séjour à Buenos Aires.
Merci beaucoup à vous.
À bientôt, au revoir.